Est-ce qu'ils sont ils, elles, là? Salut les pirates, est-ce que vous m'entendez?
Croyez vraiment que les pirates n'auront bientôt plus le droit de rêver?
Prêts les enfants?
Oui, capitaine!
J'ai pas entendu!
Oui, capitaine!
Wow!
Radio.
Radio.
Radio. Radio.
Pirate ! Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur le navire de Radio Pirate pour une traversée d'un peu moins d'une heure ensemble. Ce soir, sur notre bateau féministe, on embarque pour explorer le féminisme anticarcéral. Pour tenir la barre avec moi ce soir, il y a la matelote Alissa. Salut Alissa.
Bonjour.
Et on accueille, pour parler de féminisme et de prison, Zoé et Sego, du Génépi. Salut à toutes les deux.
Salut.
Salut.
Alors ensemble, on va explorer et tenter de comprendre ce qu'apporte le féminisme aux luttes anticarcérales et aussi comment se distingue le féminisme anticarcéral des féminismes universalistes notamment. Alors auditeurs et auditrices, naviguez avec nous et surtout, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, il est là pour ça.
Radio.
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 Pirate.
Pour commencer, Sego, est-ce que tu peux présenter rapidement ce qu'est le Génépi et quelles sont un peu les actions que vous menez au sein du Génépi ?
Du coup, le Génépi, on a un groupe de meufs militantes féministes anticarcérales qui revendiquons que la lutte anticarcérale ne peut se penser sans une lutte contre le patriarcat et que la lutte féministe ne peut se penser sans une lutte contre les prisons. On a plusieurs axes de lutte qui passent notamment par l'action et la formation, que ce soit l'auto-formation entre nous, mais aussi la formation à destination d'autres personnes, notamment dans le cadre scolaire, par exemple. Bon, c'est un peu compliqué en ce moment avec le corona et tout, mais on a fait plusieurs fois des interventions en école, par exemple. Et on se porte aussi en solidarité avec les prisonniers et les prisonnières et leurs proches, leurs luttes et leurs revendications.
Zoé, peut-être, est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu, pour poursuivre, quelles sont les positions féministes du Génépi et puis comment elles se sont construites un petit peu?
Alors, comment elles se sont construites pour parler brièvement du Génépi et de son histoire. Bon, on était quand même à la base sur une asso plutôt de droite, créée à l'initiative du gouvernement. C'était dans le contexte de gros mouvements de révolte dans les prisons, donc dans les années 70-80, par rapport aux conditions de détention qui étaient bien dégueulasses. Et du coup, parmi toutes les initiatives qu'il y a eu, il y a eu la création de cet asso pour... qui à la base en fait devait envoyer des étudiants d'écoles prestigieuses comme les hautes écoles de commerce ou polytechnique faire des cours en prison. Et du coup au contact des prisonniers sur des décennies, l'association s'est radicalisée et il y avait de plus en plus de meufs en fait et du coup de plus en plus de meufs féministes. Et ce qui s'est passé c'est qu'il y avait du coup des tentatives de penser dans un groupe mixte comment faire de cette association, de cet espace-là, un groupe antisexiste. Et surtout que, en fait, comme tout espace mixte, en fait, le Génépi n'était pas à l'abri d'agressions ou quoi. Et c'est notamment suite à ça, du coup, qu'on a décidé de prendre des positions féministes et qui ont abouti aujourd'hui à la décision d'un Génépi en non-mixité. Pour l'histoire un peu de l'association. Et pour ce qui est des revendications, je pense qu'il faut, avant de parler de comment on pense la prison donc comme une institution patriarcale, je pense que c'est important de parler de racisme et de classe sociale pour parler en fait de qui est enfermé en prison. Donc ce qui se passe, c'est qu'il y a une énorme surreprésentation en prison des personnes pauvres et ou racisées. Et c'est pas anodin parce qu'en fait, quand on réfléchit un peu au rôle de la prison, on peut la penser en fait comme d'une part un outil qui protège le capitalisme et les bourgeois, et d'autre part un outil pour le maintien de la suprématie blanche. Du coup, pour parler d'une part du rôle de la prison par rapport au capitalisme, Je pense que ce qui est important de dire, c'est que, en fait, dans une société où les riches s'enrichissent et où on laisse des gens crever de faim, il faut, bah, d'une part, un système de pensée, toute une idéologie qui va légitimer, en fait, cette violence de classe et qui passe, bah, du coup, notamment par l'idéologie du mérite. Et après, du coup, toutes les institutions qui vont avoir un rôle là-dedans, on peut les citer, elles sont nombreuses, mais par exemple, ne serait-ce que l'école, en fait, qui va juste être un tri sur qui va avoir droit, en fait, d'avoir des diplômes, d'avoir accès à des emplois plus rémunérés et qui n'y aura pas droit, en sachant que bah, l'école n'est pas exempte de racisme et de classisme, et que voilà, quand on pense la reproduction sociale, on voit bien que l'idée de l'école, en fait, c'est juste de légitimer après derrière la disparité des richesses. Et que en fait, donc enfin, et du coup, quand on pense à la prison, ben en fait, faut vraiment la penser comme un outil auquel va être confrontée toute personne qui va vouloir s'en sortir en dehors des règles fixées par les bourgeois, par le capitalisme. Et c'est pas anodin en fait que dans une société où bah il y a des gens qui crèvent de faim, on criminalise le fait de voler, de braquer des banques. Et enfin voilà qu'on envoie des personnes en prison pour avoir volé un paquet de pâtes, par exemple, ou alors qu'on criminalise aussi d'autres manières de production de richesses, qui seront en dehors des règles fixées par le capitalisme. Je pense par exemple à la vente de drogue, à la vente de contrefaçon, etc. Et du coup, on voit bien que dans un système de classe qui est aussi violent et qui pousse des gens à crever au travail, crever de faim, etc., à dormir dans la rue, la prison, elle a un rôle central pour tenir en fait ce système-là, par la force, par la répression. Et au-delà de ça, faut aussi prendre en considération que la prison profite aux bourgeois et au capitalisme de manière plus directe, quand en fait les grandes entreprises peuvent profiter des prisonniers comme main-d'œuvre surexploitée, ou souvent, en sachant que les prisonniers sont pas protégés par le code du travail. Et ce qui se passe du coup, c'est qu'il y a voilà plein de personnes en prison qui travaillent à la pièce et qui sont payées quelques centimes de l'heure parfois. Et tout ça, du coup, pour le bon plaisir des grandes entreprises. Et ça, c'est sans parler non plus des entreprises qui participent à la construction d'une part des prisons et qui sont beaucoup de blé là-dessus, ou des entreprises qui, excusez-moi, je bug.
Ouais, des entreprises qui exploitent les prisonniers qui y sont, quoi.
Oui, alors ce que je voulais dire en fait, c'était les prisonniers, pardon, les entreprises qui gèrent les prisons, parce qu'en fait, il y a plein de
Ouais.
prisons qu'on appelle les partenariats public-privé et qui sont en gros à part pour toute la gestion de la sécurité, du coup, qui revient à l'administration pénitentiaire. Toute la gestion, en fait, revient à des entreprises et du coup qui sont aussi de la thune là-dessus. Du coup, voilà la prison qui sert bien le capitalisme et les riches. Et pour parler du racisme, donc voilà, il y a une surreprésentation des personnes racisées dans les prisons. Pareil, une énorme représentation des personnes étrangères, donc qui n'ont pas les bons papiers en prison. Et ça, c'est pas anodin. C'est d'une part parce que dans la société, de manière générale, tout est fait pour précariser spécifiquement en fait les personnes racisées, et du coup ce qui fait que on va retrouver beaucoup de personnes racisées qui vont pouvoir commettre en fait des faits justement liés à leur situation de précarité. Mais c'est sans parler en fait de la police et de la justice qui va viser spécifiquement les personnes racisées. Par exemple, on parle beaucoup du contrôle au faciès, on peut parler par exemple de la BAC qui agit particulièrement dans les quartiers populaires où tout est fait pour rassembler majoritairement en fait des personnes racisées. enfin voilà, un ensemble de pratiques de la police qui va cibler majoritairement les personnes racisées, pareil avec toute cette idée de la criminalisation de rue, où en fait on criminalise la vente de drogue, mais on sait très bien que c'est avant tout les dealers racisés dans les quartiers populaires qui vont être visés par ces politiques de lutte contre la vente de drogue. Donc voilà, pour parler de la police, pour parler de la justice, ben, qui condamne plus fermement les personnes racisées et pauvres. On peut par exemple parler des comparutions immédiates, qui sont des formes de procès expéditives et qui vont envoyer quasiment systématiquement les gens en prison, et encore plus quand celles-ci n'ont pas de logement et de travail. Et donc voilà, on voit bien que là, enfin que la prison a aussi un rôle de protection en fait des blancs et de maintien dans le maintien de la suprématie blanche, et aussi qui s'inscrit dans l'héritage colonial quoi. Et du coup voilà, une fois qu'on a dit ça, bah en fait en tant que féministe, d'une part dans notre projet de lutte, on peut pas en fait envisager des perspectives qui reposerait sur d'autres systèmes d'oppression, mais c'est sans parler du fait qu'en fait, si on veut un projet féministe qui inclut toutes les femmes, bah, il y a aussi des femmes racisées, il y a aussi des femmes pauvres, et que du coup, pour ces raisons-là, on ne peut pas se reposer sur une institution, donc la prison en l'occurrence, et la justice et la police, qui en fait protège le racisme et le système de classe et le capitalisme.
Du coup, c'est un peu là, en termes d'actu, à l'occasion de la journée contre les violences faites aux femmes, le 25 novembre dernier, vous avez publié au Genepi une tribune intitulée « La prison ne sauve pas des violences sexistes et sexuelles ». C'est quoi un peu l'idée derrière cette tribune? C'est l'idée de dire, comme tu viens de l'expliquer un peu, que la justice pénale ne protège pas les femmes et ne leur rend pas justice?
Du coup, oui, c'était d'affirmer d'une part que le féminisme doit être anticarcéral et que la police, la justice et la prison sont des institutions racistes et classistes, comme l'a dit Zoé, mais aussi des institutions patriarcales qui ne nous souverront pas des violences sexistes et sexuelles et qui protègent les violeurs. Et du coup, notamment dans ce contexte du 25 novembre, journée de lutte contre les violences faites aux femmes, on trouvait ça important aussi de mettre l'accent sur ça. Du coup, sur le fait que la police, la justice et la prison ne nous protégeront pas des violeurs. D'une part parce que la prison, en l'occurrence, c'est un projet libéral de gestion des comportements, libéral dans le sens où la prison ne prend pas en compte ce qui fonde, et la justice aussi du coup, et enfin, tout ce système-là de manière générale, ne prend pas en compte ce qui fonde et crée ses comportements dans son ensemble, et qui est le patriarcat. Ça ne remet pas en cause donc, le patriarcat, ça ne s'y attaque pas, ça ne propose aucune solution aux rapports de domination de sexe qui sont à l'origine de ces violences. Au contraire, la justice et plus globalement ce système police-justice-prison va individualiser et isoler les violences auxquelles les femmes sont confrontées et de manière générale tout le continuum des violences faites aux femmes. Et d'autre part, le fait que la police, la justice, la prison ne nous sauveront pas. Enfin, ne nous sauverons pas des violences sexistes et sexuelles et ne nous protégerons pas des violeurs, c'est aussi lié au fait que ce système ne veut pas vraiment et ne cherche pas vraiment à prendre en considération les violences que vivent les femmes, qui sont faites aux femmes, comme on peut le voir avec certains mécanismes qui protègent les violeurs, les hommes et le patriarcat de manière générale. Pour en évoquer quelques-uns, on peut notamment parler de la criminalisation de l'autodéfense des femmes. Il y a des femmes qui sont incarcérées pour avoir tué un conjoint violent, un homme qui les avait agressées, etc. Par exemple, en France, on a pu entendre parler de Jacqueline Sauvage qui avait été condamnée à une peine de 10 ans de prison ferme après avoir tué son mari et qui était, enfin, son mari qui était violent avec elle depuis des années et qui avait violé ses filles. Il y a aussi des études qui montrent que la majorité des femmes incarcérées pour l'homicide d'un proche ont été victimes de cette personne, ont subi des violences sexistes et sexuelles par cette personne. Et pour évoquer un autre de ces mécanismes qui protège les violeurs, les hommes, le patriarcat, tout ça, on peut parler de la requalification fréquente des viols en agression sexuelle. Et encore une fois, pour prendre un exemple tout récent, il y a le 12 novembre, la cour d'appel qui a requalifié les viols que Julie a subi de la part de 20 pompiers de ses 13 ans et de ses 15 ans, la cour d'appel les a requalifiés en atteinte sexuelle. Et du coup, ces mécanismes protègent les hommes, sauf quand ils sont racisés ou pauvres, puisque les hommes incarcérés pour viol sont quasiment uniquement des hommes racisés ou pauvres. Et du coup, ça rejoint ce que Zoé disait tout à l'heure sur le fait que le système police-justice-prison sont des institutions racistes et classistes au service de l'État et de ses politiques racistes et classistes. Et du coup, c'est pour toutes ces raisons qu'on affirme que même réformé, et que, enfin, c'est ce qu'on disait aussi dans la tribune, que même réformé, ce système police-justice-prison échouera à prendre en charge les victimes de violences sexistes et sexuelles. Voilà, du coup, c'était un peu ça l'idée de la tribune. Après, on a aussi développé d'autres points et tout, mais voilà, c'était un peu les idées principales.
Ouais, hyper intéressant. Et,
j'avais juste un truc à rajouter.
Vas-y,
je t'en prie. Un autre exemple de mécanisme en fait qui vient protéger les violeurs. Je pense que c'est important de parler en ces termes, de parler de protection des violeurs et pas d'impunité, parce que ça sous-entend en fait que le système pénal, police, prison, justice pourrait nous sauver du patriarcat, alors qu'en fait Ségolène vient de montrer que, enfin, vient d'expliquer pourquoi est-ce que c'est pas envisageable. Et que du coup, bon, bref, tout ça pour dire que c'est mieux de parler de protection des violeurs, et du coup, ce qui est un mécanisme du patriarcat, mais qui prend racine là, en l'occurrence, dans le système police-prison-justice. Du coup, un autre mécanisme en fait de protection des violeurs, ça va être tout ce qui est fait. Tout ce qui est fait pour que les femmes ne puissent pas porter plainte. Parce que à l'heure actuelle, les chiffres estiment à peu près à une femme sur 10 qui va porter plainte. Et il y a plein de trucs qui peuvent expliquer ça. Par exemple, parce que c'est des femmes racisées et pauvres et du coup qui n'ont pas confiance en ces institutions-là et du coup qui veulent pas y avoir recours ou qui savent qu'elles n'obtiendront jamais justice par ces biais-là. Ou alors parce que tout simplement en fait, là, souvent en fait, c'est les violences sexistes, sexuelles sont commises dans les cercles amicaux et même très souvent familiaux, et qu'en fait porter plainte, c'est aussi confronter en fait son cercle familial et amical à ces violences-là, alors qu'en fait très souvent on préférait que les femmes les subissent en silence, et que du coup très souvent on va les juger responsables d'avoir cassé la famille ou le groupe d'amis, etc. Bref, un ensemble de choses qui vont totalement dissuader les femmes de porter plainte. Et suite à ça, de toute façon, parmi toutes celles qui vont porter plainte, il y a aussi un nombre aberrant de plaintes qui sont classées sans suite. Bref. Et voilà, c'était juste pour donner un peu d'autres exemples de comment, en fait, comment ces institutions protégeaient les violeurs et les agresseurs, quoi.
Ouais, et il me semble qu'en effet, dans cette dénonciation des pressions qui sont mises aux femmes pour qu'elles ne portent pas plainte et qu'il n'y ait pas de procédure, ou en tout cas pas de protection vis-à-vis d'elles, vous, au Génépi, vous rejoignez pas mal, même si bien sûr tout est relatif, les positions des collectifs féministes plus classiques ou pas forcément anticarcéraux, qui ont déjà pas mal sauté le pas de cette question. Mais là où il me semble en tout cas que vous distinguez, c'est pour ce qui est des exigences de ces autres collectifs féministes, je pense notamment à Nous Toutes, qui a pour habitude de systématiquement vouloir augmenter les peines de prison, les peines d'incarcération quand il s'agit de violeurs et ou d'hommes qui ont mené des agressions sexuelles. Et comment est-ce que vous réagissez à ces positions vis-à-vis des autres associations féministes, et qu'est-ce que c'est votre position à ce sujet?
Bah, ce qui est sûr, c'est que nous, on s'oppose à toutes les lois, en fait, pro-carcérales, soi-disant féministes. Parce qu'on part du principe, comme on vient de l'expliquer, que c'est pas par la prison qu'on arrivera à mettre fin au système patriarcal. Pour donner un exemple, il y avait cette loi de 2016 ou de 2017, je sais plus, sur contre le harcèlement de rue, qui venait criminaliser par des amendes, si je dis pas de bêtises, donc le harcèlement de rue. Ce qu'on a dit, mais en fait, on n'était pas les seuls à les dire, loin de là, et je pense qu'il s'agit pas de mettre en avant le GNEPI, parce qu'au final, on a quand même tardé à avoir ces positions-là, tandis que d'autres assos, notamment afroféministes, mettaient en avant ces enjeux-là, que autour de cette loi, cette loi serait juste un outil de plus pour l'État, donc pour la police, de criminaliser les pauvres davantage, les pauvres et surtout les racisés. Tandis qu'en fait, le harcèlement, il est absolument présent partout, au travail, dans la famille, c'était pas anodin que cette loi soit centrée sur le harcèlement de rue, et surtout que en fait, il y a cet imaginaire un peu que voilà, le harcèlement de rue, ce serait que des mecs racisés dans les quartiers qui nous feraient chier, nous les meufs. Alors qu'en fait, les mecs nous font chier absolument partout. Et du coup, je sais pas trop quoi dire plus, à part que nous, on s'oppose systématiquement à ces mesures-là, et qu'on met en avant les enjeux, qu'on essaye de mettre en avant les enjeux de classe et de race sur lesquels sont basées toutes ces lois et sur lesquelles seront basées surtout leur application, quoi. Par la police, par la justice.
Au-delà de cette idée de surpénalisation et de surcriminalisation, il y a aussi un autre aspect du féminisme anticarcéral et des femmes au sein de la prison. J'ai l'impression que le système des prisons et plus largement le système judiciaire, il n'impacte pas seulement les personnes qui sont incarcérées, mais qu'il impacte aussi en fait les proches. Comment ça se passe un peu pour les femmes qui ont souvent un proche en prison? Est-ce qu'au GNEPI, vous menez des actions en ce sens pour aider les femmes de détenus ou les femmes qui ont des proches emprisonnés?
Du coup, pour parler des proches, ce qui est important de dire, c'est que c'est à quasiment 90% des femmes, et que c'est pas anodin, parce que quand on regarde en fait toutes les tâches que font les proches, toutes les tâches, c'est des tâches de solidarité matérielle et émotionnelle. Ça passe par exemple, aller emmener du linge, faire des machines. Pour parler de solidarité émotionnelle, il y a toute la question des parloirs, des courriers, des appels téléphoniques, etc. Il y a aussi l'aide administrative, l'accès au droit, les contacts avec les avocats, etc. Et du coup, c'est un ensemble de tâches qu'on sait très connotées féminin, quoi. Et du coup, une fois qu'on a dit ça, par contre, une fois qu'on a dit que c'était 90% de femmes et que c'était surtout des tâches souvent assimilées aux femmes, on n'a pas dit que la plupart de ces femmes-là, de la même manière que les personnes en prison sont souvent racisées et pauvres, les personnes confrontées à la prison en tant que proches vont aussi être très souvent pauvres et ou racisées. Et que du coup, si on parle, ce qu'il faut savoir, c'est que les proches sont très très, enfin que la prison les affecte énormément, que c'est une quantité de stress, gérer le stress, de savoir comment va le proche à l'intérieur de la prison, comment ça se passe, là encore plus avec le Covid, le peu de mesures qui sont prises, le danger, la situation de danger, surtout qu'aussi il y a la question des violences de maton, Enfin, voilà, un ensemble de choses qui peuvent clairement générer du stress, bien sûr, chez les prisonniers, mais aussi chez leurs proches. Donc de l'angoisse, aussi de la précarisation, parce que ça veut dire une perte de revenus pour le foyer, ou d'allocations, parce que quand on est incarcéré, on perd des allocations. De toute façon, en tant que proche, enfin, déjà, quand on est incarcéré, il y a des frais pour la télé, pour la cantine, pour enfin tout un tas de frais pour le téléphone. Et que du coup, bah, les proches aussi doivent filer de la thune, donc ça participe à leur précarisation. Qu'il y a les frais de déplacement pour aller au parloir, etc. Donc, enfin voilà, les proches retrouvent très très affectés par la prison. Et du coup, si on veut parler des enjeux un peu de classe et de race par rapport aux proches, ce qu'il faut se dire, c'est que de manière générale, en fait, les femmes des classes populaires sont très confrontées aux administrations pour les demandes d'allocation, pour les bourses, le chômage, le RSA, enfin, en fait, un ensemble de tâches administratives qui vont s'ajouter à celles que la plupart des gens ont, et du coup c'est pas anodin que en fait la prison ça s'inscrit dans ce truc-là aussi de couvrir les proches de tâches administratives pour pouvoir accéder à des parloirs, pour avoir des nouvelles à l'intérieur, etc., pour contacter les avocats et pour parler un peu des enjeux de race. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en gros, comme on disait, la prison, c'est une institution raciste. Et du coup, souvent les féministes vont parler de la famille comme étant une institution patriarcale, et du coup dans laquelle les femmes vont y être exposées au sexisme, et c'est également le cas pour les femmes racisées. Mais il faut aussi prendre en compte que pour les femmes racisées, la famille, c'est aussi le seul endroit où enfin l'un des seuls espaces pour elles dans lesquels elles sont a priori protégées du racisme et des violences de classe, et que c'est en fait un des seuls réseaux de solidarité en tant que personne racisée, et que du coup à ce titre ça peut être super important. Et du coup c'est pas anodin qu'en fait ce soit les proches et donc les familles comme seul réseau de solidarité pour les personnes racisées qui se retrouvent là à faire le travail à l'extérieur des murs pour les proches incarcérés qui sont en prison à cause du racisme et du système de classe. Donc voilà un peu pour les proches. Je pense un peu comment on peut voir la situation des proches. Après, peut-être Sego, tu peux te dire un peu ce que vos Génépi ont fait par rapport à elle.
Nous, on essaye de créer du lien avec les proches. Et ça passe notamment, par exemple, en allant régulièrement devant les tôles pour parler avec elle des conditions d'incarcération, mais aussi d'anticarcéralisme, par exemple. Du coup, c'est un truc qu'on fait au Génépi, mais c'est clairement pas un truc qui a été... On n'est pas les premiers à faire ça, que ce soit en France ou dans le monde. Il y a d'autres associations en France qui font aussi, des actions de ce type. Voilà, un peu par rapport aux proches... Il y a cette question de se poser se porter en solidarité avec elle de cette manière, mais aussi en relayant leurs revendications, par exemple. Voilà un peu, de manière rapide.
Super. Après avoir fait un peu ce tour d'horizon du système carcéral, de ses dysfonctionnements, je vous propose qu'on écoute une petite musique, on va faire une petite pause, et puis on se retrouve juste après sur Radio Pirate. De retour sur Radio Pirate, on vient d'écouter Kimiko Ishizaka jouant du bac. On est en compagnie de Sego et Zoé du Genepi et on parle féminisme anticarcéral. Alissa, pour apporter une autre dimension à cette discussion, tu as préparé une chronique sur la transidentité en prison et je te laisse la parole pour nous expliquer tout ça.
Oui, bonjour tout le monde, bonjour la piraterie. Moi c'est Alissa, donc je redis bonjour, mais voilà, moi c'est Alissa et je suis là ce soir pour vous parler transmisogynie, encore une fois, qu'est-ce que vous voulez, on se refait pas. Et cette fois, puisque c'est le sujet de l'émission, du problème que pose l'incarcération et la prison de manière générale pour les femmes transgenres. Deux mises au point déjà, la prison c'est un enfer pour tout le monde. Très loin de moi l'idée de minimiser le calvaire que vivent les personnes cis incarcérées, mais il me semble néanmoins légitime de se demander déjà concrètement comment ça se passe en fait pour les personnes trans, parce que j'ai des doutes quant au fait que peut-être les personnes cis qui nous écoutent aient une réelle connaissance du sujet, et comment fatalement le système carcéral reproduit le système patriarcal et transphobe qui prédomine dans la société française. Deuxième mise au point donc, en préparant cette chronique, même si bon, je m'y attendais un petit peu, j'ai cherché des statistiques pour faire un point sur la situation et le fait est que ben, il n'y en a pas. Tout ce que j'ai trouvé, c'est une directrice de prison qui dit qu'il est impossible de quantifier le nombre de personnes trans en prison. Voilà, c'est super, merci beaucoup. Donc, pour vous faire un état des lieux, j'ai juste des témoignages et des stats d'autres pays, donc bah, mon bilan il vaut ce qu'il vaut, mais il me paraît quand même important à faire. Déjà, et ça se confirme en termes de stats dans les autres pays, les personnes trans incarcérées sont en écrasante majorité des femmes. Et comme nous en parlait Zoé dans la première partie de cette émission, l'incarcération des femmes transgenres n'échappe pas au système de racisme et de classisme de la société, puisque en majorité, les femmes trans qui sont incarcérées sont bien souvent racisées et précaires. On a même beaucoup de témoignages de femmes trans qui sont travailleuses du sexe et qui ont atterri en prison. Et donc, pour en revenir ensuite à une question beaucoup plus concrète, comment ça se passe en vrai ? Eh bien, en théorie, pour déterminer dans quel type de prison on envoie une personne trans, c'est la vieille obsession des cis pour ce qu'on a entre les jambes qui prime. Donc voilà, si vous avez un pénis, paf, c'est une prison d'hommes, et si vous avez un vagin, c'est dans une prison pour femmes. Et on mate toute velléité de résistance à grands coups de « oui, mais vous n'avez pas fait l'opération ». Donc ça, c'est la théorie. Déjà, si ça se passait comme ça, ça serait hautement transphobe, hein, j'en conviens tout à fait. Mais en plus, dans la mesure où un fort taux de ces femmes incarcérées sont étrangères, il y a un problème de barrière de la langue. Donc en plus, il est difficile d'expliquer qu'on a une identité de genre qui diffère de ce qui a marqué sur notre état civil. Et de toute façon, même en dehors de ça, il y a déjà des femmes trans qui ont fait une vaginoplastie, qui ont été envoyées quand même dans des prisons pour hommes. Ensuite, pour ce qui est des conditions de détention, bah, bien évidemment c'est catastrophique. Il y a des humiliations de la part des matons. Je suis même tombé en faisant des recherches sur un communiqué d'un syndicat de matons qui dénonçait des détenus dont on ne sait même plus s'ils sont mâles ou femelles. Super. Il y a de très grosses difficultés pour avoir accès à des traitements hormonaux, qui sont parfois vitaux pour certaines d'entre nous, et un taux d'agression sexuelle au sein même des prisons qui est très élevé, puisque on sait par exemple, même si transposer aux États-Unis c'est pas forcément toujours une bonne idée pour ce qui est des prisons, mais c'est la seule stat que j'ai trouvée donc je vous la donne, aux États-Unis, 33% des détenus qui sont des personnes transgenres affirment avoir vécu des agressions sexuelles en détention contre 4% pour la totalité des détenus. Ensuite, pour ce qui est des institutions, les femmes trans sont en majorité dans une maison d'arrêt pour hommes qui se situe à Fleury-Mérogis, au sud de Paris, et qui ont un accès très limité aux activités de l'établissement qui sont censées rythmer leur vie, puisque donc, c'est un centre de détention pour hommes, et que du coup, leur statut de femme trans fait que les matons ont obligation de ne jamais les faire croiser les autres détenus. C'est d'ailleurs dans cet établissement qu'intervient l'association Acceptas Transgenre, qui essaye de leur faciliter la vie, de leur faciliter l'accès à des traitements hormonaux et à tout un tas de commodités. Il y a eu une autre prison qui a fait parler d'elle quant à la situation des personnes transgenres. C'est une prison à Caen qui se veut progressiste et qui, et oui, une prison progressiste, vous avez bien entendu, et qui, paroxysme du progressisme, vous en conviendrez, autorise des prises d'hormones, le port de vêtements féminins et les sorties pour des épilations définitives. On y est presque mieux qu'en croisière à Dubaï. Donc, je suis un petit peu cynique sur ce dernier point, mais je peux vous dire que ça a été dur de lire des articles qui présentent tous ces aménagements comme des solutions aux violences que subissent les femmes trans en prison et qui décrivent la fameuse directrice de la prison de Caen qui est à l'origine de ces aménagements comme ouverte d'esprit et une pionnière en ce qui concerne les droits des personnes trans, alors que bah, d'une part c'est une directrice de prison, donc c'est une sale machine à déshumaniser qui reproduit tous les systèmes d'exploitation de notre société et qui a bien plus de sang sur les mains que les personnes qu'elle est supposée punir. Et en plus, dans l'interview, elle mégenre systématiquement les détenus et elle les infantilise à fond, donc vraiment super. Hein. Le progressisme a de beaux jours devant lui. Donc voilà, ceci est un aparté, mais par pitié, si vous êtes cis et pro-prison et que vous voulez faire un article sur les femmes trans en prison, par pitié, retenez-vous. C'est un supplice à lire. Donc, pour conclure cette chronique, j'aimerais bien, au regard de mon prisme, donc qui est déjà tout ce que je viens de vous raconter sur la transidentité et la transmisogynie, mais aussi celui du féminisme et de mes opinions politiques, j'aimerais vous exposer déjà ma position, même si ça vaut ce que ça vaut, quant à la position à adopter vis-à-vis des prisons. C'est déjà, vous allez peut-être pas être surpris ou surprise beaucoup, c'est le thème de l'émission, c'est crève la tôle. Ni personne cis, ni personne trans derrière les barreaux, on rase tout, on fait des parcs à thème. Donc les camarades qui vous parleront du sujet des prisons un petit peu plus tard vous le diront sûrement bien mieux que moi, mais bien entendu, cette destruction des prisons, elle vient pas sans une remise en question du système pénal, un développement de la justice réhabilitative et de la réinsertion, mais en ce qui me concerne, et il me semble que c'est une opinion que je partage aussi avec le Génépi, l'objectif reste l'abolition de la prison. Et justement, là où je m'interroge, c'est vis-à-vis de ce dont je vous ai parlé un petit peu avant, il est clair que la position des personnes trans en prison est extrêmement préoccupante, et que l'intervention d'une association comme Acceptas Transgenre au sein des prisons pour les personnes trans importante et même quasiment vitale pour beaucoup de personnes trans incarcérées, mais la question que je me pose et à laquelle j'ai jamais vraiment su répondre, c'est est-ce que dans une optique d'abolir les prisons et de lutter contre le système carcéral, est-ce que j'aimerais bien avoir votre opinion là-dessus, si vous le voulez bien. Zoé et Sego du Génépi, est-ce que intervenir en prison, c'est pas aussi se substituer déjà à ce qui est censé être un service public? Et est-ce que du coup, là, dans ce cas très précis qui est celui des personnes transgenres, est-ce qu'on contribue pas un peu aussi à un système qui est destructeur? et qui du coup en intervenant dans ces prisons, est-ce qu'on ne rend pas la prison un petit peu plus performante et on l'améliore, même si ce n'est pas notre objectif à la base? Et voilà, je m'éternise, c'est une question beaucoup trop longue. Mais qu'est-ce que vous en pensez? Comment vous voyez le fait d'intervenir au sein des prisons?
Merci Elissa pour cette super chronique. Sego, Zoé, est-ce que vous voulez un peu répondre à cette question sur l'intervention dans les prisons et comment on deal avec ça? Est-ce que c'est une bonne idée d'améliorer les prisons de l'intérieur? Est-ce que c'est contre-productif?
Bah pour moi, il y a deux choses à cette question qui est certes importante à se poser, mais parfois j'ai l'impression qu'il aboutit à des mauvaises conclusions. Donc tout à l'heure, tu parlais de Alissa, de choses donc qui devraient être faites par l'État, mises en place par l'État, par les services publics. Je ne sais plus quelle était ta formulation exacte, mais c'était cette idée-là, je crois. Je pense qu'il y a énormément de choses qui devraient revenir dans les obligations de l'État. Je dis un truc, bah, pour toujours parler des meufs trans, en plus en tant que meuf trans. Genre, il y a des meufs trans à la rue, par exemple, et je pense que ça devrait être dans les missions de l'État de pas laisser des gens de manière générale dans la rue, mais pour reprendre l'exemple des meufs trans. Voilà, et que c'est pas du coup quelque chose qui justifierait simplement le fait que, enfin, qu'on mette pas en place de la solidarité matérielle et qu'on puisse pas héberger et soutenir les personnes et de les aider à trouver une situation un peu moins précaire pour qu'elle puisse s'autonomiser et tout. Et du coup, pour moi, la question, elle réside plus sur la manière dont ça va être fait. En sachant que là, donc, tu parlais d'un truc qui était pour moi assez central, c'est que justement, tu parlais de quelque chose qui était indispensable, vital pour certaines meufs trans. Et du coup, bah, ça dépend déjà ce qu'on va faire ça dépend ce qu'on veut faire. Mais s'il s'agit de rendre accessibles les hormones en prison, je pense que cette question de c'est sûr qu'on sert les chiffres de l'État et que on améliore les statistiques en termes d'activité ou je sais pas quoi, d'intervention, etc. Mais que ça doit pas primer sur, enfin que ça doit pas empêcher des formes de solidarité matérielle. Et la question pour moi, elle est plus dans comment on fait ça et sur en sachant que aujourd'hui avoir des liens à l'intérieur des prisons, c'est super compliqué. Donc du coup à moins d'être une association et de négocier avec l'administration pénitentiaire, c'est compliqué en fait. Enfin, tu peux pas arriver avec un collectif anticarcéral dire nous on veut faire ça. Enfin, ça marche pas comme ça en fait pour mettre des trucs en place en prison. Et du coup, je pense que la question aussi qu'il faut se poser, c'est les conditions dans lesquelles ça se passe et qu'il y a une vraie réflexion et des tentatives de négociation, de rapport de force à mettre en place avec l'administration pénitentiaire pour que ça se passe dans les meilleures conditions, que bien sûr les demandes, les exigences des personnes pour qui on veut mettre en place des trucs soient aussi mises en centre des préoccupations. Mais il y a aussi une réflexion à avoir, par exemple, chez Cogenepi. Nous, il y avait parfois ce qui a fait aussi partie des raisons pour lesquelles on a arrêté d'intervenir en détention, c'est que pour mettre en place des trucs, bah, parfois on nous obligeait la présence de matons ou de caméras ou de dispositifs d'écoute, ou alors des fouilles à nu qui suivaient les activités. Bref, un ensemble de choses qui sont bien, bien dégueu. Et du coup, c'est, je pense, des choses avec lesquelles il faut discuter avec l'administration pénitentiaire pour s'assurer que, en fait, les choses qu'on veut mettre en place, elles vont pas nuire plus qu'autre chose aux prisonniers. Donc, je pense qu'il y a c'est sûr qu'il y a une vraie réflexion. Et en fait, je dirais pas à n'importe quelle association d'aller faire des trucs en prison, et ça dépend ce qu'on y fait, mais pour une question aussi importante que les traitements hormonaux, à l'intérieur de la prison, je pense que la question de participer au système, elle a pas empêché. Enfin, la priorité, ça reste d'aider, ça reste la solidarité avec les meufs à l'intérieur, quoi.
Donc, pour poursuivre un peu la discussion, moi, je me disais, en préparant un peu l'émission, je me disais que quand on tient des positions anticarcérales et féministes en même temps, on est très vite confronté à la question, très souvent, d'autres féministes qui sont pas sur la même position, qui nous disent très vite, oui, mais s'il n'y a pas de prison, où est-ce qu'on met les violeurs pour être en sécurité, etc. Et du coup, je me demandais qu'est-ce qu'on peut répondre à ça qui soit entendable par celle qui posait la question. Mais après, enfin, je sais pas qui veut répondre à cette question, mais c'est aussi, je pense que c'est aussi un truc où on peut assumer aussi de ne pas avoir la réponse à cette question. Et aussi, j'ai l'impression que c'est une injonction qu'on nous fait de trouver une solution pour mettre les violeurs très vite, et du coup, peut-être que la réponse est détourner une exigence de réponse rapide, quoi. Oui, en fait, il faudra trouver une solution genre demain. Où est-ce qu'on met les violeurs? Sauf qu'en fait, on sait très bien aussi que la fin des prisons et tout, ça va prendre. C'est un truc qui prend du temps à se construire et tout, et du coup, c'est aussi... Enfin, bref. Je sais pas si j'ai été très claire, mais voilà, sur cette idée de... quand il n'y a pas de prison, où est-ce qu'on met les violeurs? Est-ce qu'il y a l'une d'entre vous qui veut répondre?
Mais en fait, du coup, ça, c'est une question qu'on nous pose tout le temps, qui revient tout le temps dès qu'on parle d'anticarcéralisme et de féminisme anticarcéral encore plus. Et enfin, nous, on n'a pas de réponse toute faite à apporter, déjà, comme tu dis, Sophie, parce que ça prend du temps... à réfléchir et c'est des trucs qu'on réfléchit entre nous évidemment parce que c'est important, mais on veut pas proposer une sorte de guide sur ces questions-là. Après, on a quand même quelques pistes de réflexion qu'on peut proposer et auxquelles on réfléchit entre nous. Déjà de manière générale, le système police, justice, prison ne prend pas du tout en compte les volontés, les nécessités des victimes, et en fait la base, ça serait déjà d'écouter les victimes, de prendre en compte ce qu'elles veulent, ce qu'elles souhaitent. Après, il y a aussi la question de l'autodéfense qui se pose, de donner aux femmes les moyens de se défendre par elles-mêmes. Et puis, bien évidemment, la question aussi de prévention des agressions qui permettrait d'éviter d'avoir recours à des institutions répressives. Et par rapport à cette question des victimes aussi, un truc... Bah, j'en profite pour en parler ici, qui est super important pour nous et sur lequel on voulait faire un point aussi, c'est que il s'agit en aucun cas pour nous, féministes et anticarcérales, de culpabiliser les femmes qui ont recours à ces institutions. Idéalement, on souhaiterait ne pas avoir besoin de recourir à ces institutions, mais en fait, du fait du peu de moyens à notre disposition dans la société actuelle, on fait comme on peut dans les faits, quoi. Et voilà, un peu par rapport à cette question. Je sais pas si Zoé, tu voulais rajouter d'autres choses ou pas.
Enfin, je suis d'accord avec ce que tu as dit, Sego. Enfin, en fait, je pense qu'on n'a même pas à chercher à trouver une réponse simple et unique, parce que à chaque fois, ça dépendrait de l'acte en lui-même, de la victime, et comme disait Sego, de remettre en plein de ses besoins, etc. Ça dépendrait, peut-être éventuellement aussi des responsabilités collectives. Est-ce que, comment en fait le collectif a pu être aussi en partie responsable de et cautionner ou permettre l'agression d'une manière ou d'une autre. Je pense que du coup, du fait en fait de à chaque fois les paramètres qui sont propres à genre chaque. Enfin, je pense que l'idée c'est pas de reproduire une institution qui gérerait tout, enfin qui gérerait toutes les violences de, enfin sexuelles, sexistes, mais plus l'idée de dire que déjà relocaliser, donner plus de pouvoir aux meufs, au local, leur donner les moyens de se défendre, aussi accepter que la violence puisse être une solution, parce que on est aussi dans, enfin comme ça s'inscrit aussi dans une perspective de lutte contre le patriarcat, qui est un système archi-violent pour les femmes au quotidien. Et ben on doit pas exclure la violence, parce qu'il s'agit de, il s'agit aussi de, d'instaurer un rapport de force. Et d'inclure potentiellement des moyens d'action qui puissent être jugés violents, mais aussi pour que sur le long terme en fait les violeurs comprennent que c'est vraiment plus dans leur intérêt de pour que les hommes comprennent que c'est plus du tout dans leur intérêt de violer, quoi. Et du coup, voilà. Et je pense que, en parallèle de tout ça, du coup, de toute cette question de genre gestion des violences, genre au moment T, un peu d'urgence, etc., bah, il y a cette question de bah, stratégie de lutte féministe, comment on s'organise, comment on... Enfin voilà, de prioriser les meufs tout le temps, de créer des solidarités entre meufs tout le temps, de devenir lesbienne par exemple, de, enfin voilà, dénoncer l'hétérosexualité parce qu'on parle de violence de genre, violence sexuelle, mais en fait, comme la plupart de ces violences, elles ont aussi lieu dans le cadre du couple hétérosexuel, ça passe par dénoncer en fait l'hétérosexualité comme système. Du coup, voilà, ça pose la nécessité aussi de réfléchir sur le plus long terme à comment en fait on en finit avec ce système patriarcal avec l'hétérosexualité, quoi.
Eh ben, on arrive doucement à la fin de cette émission. On a même un peu dépassé notre horaire. Bon, on l'a bien compris, c'est tout à fait une lutte sur le long terme. Merci à vous d'avoir suivi cette émission sur Radio Pirate. Merci Sego et Zoé de nous avoir rendu visite.
Bah, merci de nous avoir invités.
C'est cool de pouvoir participer à cette émission.
Et bah, avec grand plaisir. Merci Alissa d'avoir navigué avec moi ce soir.
Pas de soucis, c'était fort bien.
Merci à Rogwen pour la technique et Nico qui était à la modo ce soir. Demain, vous écouterez Maxime qui vous proposera de jouer autour des bêtises Topi. Donc, si vous ne savez pas ce que c'est, eh ben, demain, 21h sur Radio Pirate, vous saurez. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour continuer à parler de féminisme tant qu'il le faudra. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et bon vent. Thank you.